franceinter.fr.
Le journal Bruno Duvic.
Bonjour à tous. Au sommaire aujourd'hui, le climat social en France, Sciences Po bloqué depuis ce matin, l'entrée de la rue Saint-Guillaume à Paris, c'est une nouvelle étape de la grogne toujours minoritaire dans l'enseignement supérieur. La grève à la SNCF, quatrième épisode, y a-t-il oui ou non baisse de la mobilisation? Les réponses de Maxime Debs, qui suit le dossier pour France Inter, échange très direct entre Emmanuel Macron et des cheminots ce matin à Saint-Dié-des-Vosges. À Notre-Dame-des-Landes, Nicolas Hulot descend sur le terrain, il présidera cet après-midi la réunion avec les zadistes. À l'étranger, la détente en Corée, de nouveaux mots et gestes inédits. La Corée du Sud se dit prête à un traité de paix jamais signé depuis les années 50. Côté américain, le futur ministre des Affaires étrangères a rencontré récemment Kim Jong-un. Moment historique aussi à Cuba. Dans quelques heures, la page Castro sera en grande partie tournée. Raúl Castro va quitter la présidence. Les magazines Elle ou Télé 7 jours, bientôt sous giron tchèque. Le groupe Lagardère cède une partie des bijoux de famille. Lagardère, c'était des dizaines de journaux il y a quelques années encore, il n'en reste plus grand-chose. Invité de ce journal pour en parler, l'historien de la presse Patrick Evenot. Dans cette édition encore, le comédien Philippe Cobert, soupçonné de viol, il nie formellement, nous l'entendrons. Et puis après Nicolas Dupont-Aignan et Marine Le Pen, Laurent Wauquiez plaide pour un référendum sur l'immigration. L'objectif est de faire baisser l'immigration. Laurent Wauquiez qui tape fort sur ce sujet, nous l'entendrons. Le choix cinéma d'Eva Bétan, cette semaine c'est un film argentin. Et puis les belles et bonnes nouvelles côté météo. Bonjour Élodie Calac.
Bonjour à tous.
Encore du très beau temps aujourd'hui.
Oui, du soleil pour tout le monde. À peine quelques nuages sur le relief du sud avec une ondée sous les nuages les plus joufflus. Attention au fort risque d'avalanche sur les Pyrénées, sur les Alpes. Le vent d'autan, lui, se renforce jusqu'à 80 km à l'heure. Et température, là, ça ressemble à l'été avec 21 à 25 degrés autour de la Méditerranée, 23 degrés près de la Manche et 25 à 28 ailleurs.
Nuages joufflus, même les nuages sont sympathiques aujourd'hui. Ciel bleu sur les herbiers, nous suivrons le retour des héros vendéens qualifiés hier soir pour la finale de la Coupe de France. Vous êtes les bienvenus dans le journal de 13h. C'est presque sa troisième intervention médiatique en moins d'une semaine. Une opération communication en direct pour Emmanuel Macron sur les chaînes d'info continue devant les micros de radio. Le président de la République en déplacement à Saint-Dié-des-Vosges ce matin. Un comité d'accueil de cheminots hostile. Il est allé au contact.
Alors, monsieur, je suis conducteur de train SNCF. Oui. La dette, il faut la reprendre. Il n'y a plus de sous pour entretenir les voies.
Mais arrêtez, je suis là pour répondre. Écoutez,
la dette, c'est pas le statut des cheminots parce que vous faites toujours l'amalgame.
C'est non, pas mais je fais pas l'amalgame.
Si
vous m'écoutez, vous parlez. Vous répondez.
Bah, allez-y, vous êtes sur la télé, moi jamais.
Ça dépend combien vous êtes prêt à bouger, les amis.
Bon, bouger. Vous savez combien vous faites de week-end par mois?
Mais
on en fait un sur deux.
Mais je sais ce que c'est.
Un sur deux, on fait.
Mais vous ne serez pas concerné.
Mais vous ne ferez que 50. Moi, c'est toute ma vie que je le fais.
Je vais être très clair avec vous. Si on veut faire avancer les choses, on a besoin de cette réforme, croyez-moi.
Moi, ce qui m'énerve, c'est qu'on se compare tout le temps aux postiers, machin. Par contre, ceux qui sont au CAC 40 là-haut, qui touchent des millions, mais non, mais monsieur Arnaud, qui travaille même pas, qui chaque minute gagne des millions, mais lui, on lui demande rien. Rien du tout. Rien du tout. Et vous faites son pognon libre. La fraude fiscale, c'est 60 milliards par an. 60 milliards par an, la fraude fiscale. Attaquez-vous à eux avant de s'attaquer à tout le monde.
Voilà pour cet échange ce matin au micro de Cyril Gradiani et Marcos Darras. La grève à la SNCF est entrée dans son quatrième épisode hier soir, cela jusqu'à vendredi matin. Un TGV sur 3, 2 trains régionaux sur 5, Paris ou province, un intercité sur 4, les 3 quarts à l'international. Voilà le programme de circulation. Il y a aujourd'hui 19,8% de grévistes au total, 60% chez les conducteurs. Est-ce que cette mobilisation est en baisse chez les cheminots? C'est la petite musique qu'on entend ces derniers jours. Est-ce que c'est réellement le cas, Maxime Debs?
Eh bien, d'abord, il ne faut pas se tromper, Bruno. Il existe plusieurs chiffres pour ça. J'ai posé la question à Rémi Bourguignon, chercheur au CEVIPOF et spécialiste des conflits sociaux.
Le taux de grève qui est annoncé par la direction la veille des deux jours de grève, ce taux de grève est en fait le taux de grève parmi les personnels indispensables, ceux qui ont obligation de se déclarer 48 heures avant la grève. Mais ces personnels indispensables ne constituent que finalement un tiers des cheminots. Si la direction de l'entreprise le présente comme un taux de grévistes sur l'ensemble des cheminots, alors oui, c'est une présentation un peu biaisée de l'indicateur.
Un indicateur biaisé, c'est bien ce que dénoncent les syndicats. À cela, la direction répond que tout ça est faux. Non, on ne s'en tient pas seulement au personnel indispensable, aux seuls conducteurs et contrôleurs qu'il faut pour faire circuler les trains et qui doivent se déclarer grévistes 48 heures à l'avance. Ariane Verderosa travaille à l'Observatoire l'Observatoire social de la SNCF, tenue de faire les comptes. Elle défend ces chiffres actualisés aussi souvent que possible. Ils sont fiables, au moins fidèles à une certaine réalité.
Je ne garantis évidemment pas au bonhomme près, mais les petites imprécisions à la marge doivent se compenser les autres assez largement sur le terrain. Et en tout cas, je ne vois pas de distorsion notable après coup.
À la décharge de la direction, le décompte n'est pas toujours évident. Quand il faut communiquer la veille pour le lendemain, on pourrait aussi bien attendre la fin de la séquence de grève que celle-ci soit finie. Mais commente la SNCF à ce compte-là, ça n'intéresserait plus vraiment les usagers.
À propos de cette réforme à la SNCF, une précision importante venue de l'hôtel Matignon ce matin. Les cheminots ne seront plus recrutés au statut de cheminot à partir du 1er janvier 2020. C'est une précision que nous n'avions pas encore. Il était logique, dit-on à Matignon, de tout aligner sur cette date qui correspond notamment au début de la reprise de la dette de la SNCF et la transformation du statut de l'entreprise. Maxime Deppe, ça peut être important, ça peut jouer dans les négociations.
Ah oui, parce que joint à l'instant Didier Aubert, secrétaire général de la CFDT cheminot, dénonce une énième provocation du gouvernement, un déni de démocratie sociale. Les syndicats espéraient que la fin du recrutement au statut se fasse le plus tard possible. Eh bien,
ce sera dès 2020.
Ce sera dès 2020.
Merci Maxime. Hier, le projet de loi qui grave dans le marbre la réforme a été adopté à une très large majorité à l'Assemblée, 454 voix pour. La droite, en particulier, a très largement voté pour. Cette mobilisation-là reste très minoritaire, mais elle dure. La contestation dans les universités, sur 70 universités, il y a des perturbations dans une dizaine de sites, des blocages dans une poignée, 4 ou 5. Les informations de la matinée dans ce dossier, le principal campus de Rouen, campus du Mont-Saint-Aignan, est fermé, examen reporté, et puis le bâtiment principal de Sciences Po à Paris, rue Saint-Guillaume, est lui aussi fermé. Reportage Yann Gallic.
Devant les grilles de Sciences Po, les agents de sécurité filtrent les entrées à l'intérieur du bâtiment. Une centaine d'étudiants occupent les salles de cours depuis hier soir et les protestataires commencent à s'organiser.
On fait le ravitaillement pour que les gens puissent continuer de bloquer le bâtiment sans sortir.
Donc vous êtes chargé d'amener à manger?
C'est ça, des fruits, des salades, du pain, etc. Et on fait un roulement pour pas qu'il y ait débordement et que les gens, qu'il n'y ait pas de groupe violent qui puisse rentrer et saccager l'intérieur.
Macron, ton école est bloquée, voilà ce que l'on peut lire sur l'une des banderoles déployées aux fenêtres. Le président de la République est lui-même passé par Sciences Po. Cette occupation est évidemment symbolique, explique Théo, l'un des étudiants qui participe au blocage.
Sciences Po, c'est l'école du pouvoir, c'est une fabrique à élite. Il y a énormément de députés, de politiques, de membres du gouvernement qui sont passés par Sciences Po. Donc en fait, bloquer Sciences Po, c'est effectivement hyper symbolique. C'est pour montrer que même dans l'école de Macron, on est contre le projet de société qu'il veut nous imposer.
Mais les étudiants de Sciences Po sont divisés. Cette occupation pacifique a aussi ses détracteurs.
C'est une négation des libertés fondamentales. C'est totalement illégal d'occuper une institution comme ça. Et ça empêche la majorité des étudiants d'étudier alors qu'ils n'ont rien demandé. Donc c'est totalement antidémocratique. C'est aberrant.
Une nouvelle AG sera organisée ce soir. Cette occupation pourrait encore durer plusieurs jours. À Sciences Po, Yann Gallic, France Inter.
Dans ce dossier, autre information importante de la matinée. Pour éviter que quelques dizaines de personnes décident pour plusieurs centaines, la présidence de l'université de Strasbourg a organisé une consultation électronique sur le blocage. Plus de 16 000 étudiants ont répondu et à 71%, ils sont opposés au blocage. Autre front, dès le mois de mars, la CGT Énergie avait annoncé des actions parallèles à celles des cheminots. Cela ne s'est pas beaucoup vu jusque-là. Le syndicat veut passer à la vitesse supérieure et brandit à nouveau la menace de coupure ciblée. Bonjour Manuel Ruffez.
Bonjour.
Quelle forme peut prendre cette action, Manuel? Vous êtes au siège de la CGT à Montreuil.
Eh bien, on rentre dans le dur dès ce soir. C'est exactement ça ce que vient d'annoncer la Fédération Mine Énergie de la CGT. Dès ce soir, pour ceux qui prennent leur poste en 3-8, il y aura donc des baisses de production, des coupures ciblées. Pour les usagers, des bascules d'heure pleine en heure creuse, qui pourraient concerner jusqu'à 100 à 150 000 foyers à chaque fois, ou encore le rétablissement du gaz ou de l'électricité dans les foyers coupés pour cause d'impayés. Et puis des entreprises seront particulièrement ciblées, question de convergence des luttes, la SNCF bien sûr, mais également l'enseigne de distribution Carrefour, Sébastien Ménesplier de la CGT Mine Énergie.
C'est pas des menaces, c'est des formes d'action qui sont mises en débat avec les salariés grévistes. Il n'y a pas de menace du tout dans ce qu'on dit. Par contre, en effet, les salariés de Carrefour aujourd'hui qui sont mobilisés pour leurs conditions de travail et pour leur salaire sont à la recherche de convergence d'action et notamment avec nous, comment on peut les aider pour qu'ils se fassent entendre. Donc on va essayer de regarder ce qu'il est possible de faire. Mais vous savez, on va mettre en péril personne.
Et surtout pas question de pénaliser les usagers, disent encore les représentants de la CGT, qui annoncent un mouvement qui va aller crescendo. Après la journée de demain, suivront celles des 24 et 26 avril, puis bien sûr le 1er mai. Pas une semaine, promettons ici, sans action jusqu'à la fin du mois de juin.
À propos
propos de cette journée de demain. Merci Manuel Ruffez. Il y a aussi un appel à la grève à la RATP. Des perturbations à attendre sur les lignes A et B du RER. Chez Air France, c'est aujourd'hui. 70% des vols sont assurés. Et puis à Notre-Dame-des-Landes, Nicolas Hulot s'implique beaucoup plus directement dans les négociations. C'est lui qui présidera la réunion avec les zadistes en préfecture de Nantes dans un peu plus d'une heure. Nous étions avec Manuel Ruffez dans l'actualité de l'énergie. Dans cette actualité, une acquisition importante annoncée ce matin. Total rachète Direct Energy, le troisième fournisseur d'électricité, le quatrième de gaz en France. La compagnie pétrolière acquiert les trois quarts du capital pour 1,4 milliard d'euros.
France Inter, le journal de 13h. Bruno Duvic.
À l'étranger, l'histoire s'écrit des deux côtés du Pacifique. Aujourd'hui, dans quelques heures, l'ère Castro à Cuba sera en grande partie terminée. Raúl Castro va quitter la présidence lors de la session de l'Assemblée nationale cubaine, 10 ans après avoir succédé à son frère. Nous profitons de ce moment clé pour l'île pour partir en reportage à Cuba. Raúl avait succédé à Fidel Castro il y a 10 ans. Fidel mort il y a 1 an et demi. Et malgré son bilan tragique en matière de liberté publique en particulier, eh bien, il y a une nostalgie pour Fidel Castro dans l'île. Envoyé spécial de France Inter à Cuba, Olivier Poujade.
Ce n'est qu'une infime partie de son travail. Roberto Chile sirote un rhum sur sa terrasse. Il manipule ses photos avec délicatesse, celle de son seul et unique modèle, Fidel Castro. L'image de son dernier discours sur la place de la Révolution en 2006, 10 ans avant sa mort. La gorge de Roberto se noue.
Il me manque et je peux te dire qu'il manque aussi à ses ennemis. Il fascinait ceux qui ne pensaient pas comme lui.
Depuis la disparition du leader de la Révolution, remplacé en 2008 par son frère Raúl, Cuba n'est déjà plus ce qu'elle était pour Roberto.
Ce n'est pas parce que Raúl était le frère de Fidel qu'il allait agir de la même manière. Il a défendu la révolution pour les mêmes raisons, mais pas vraiment avec les mêmes méthodes.
Les réformes ordonnées par Raúl Castro font comprendre à Roberto Chile qu'une époque se termine, mais il appréhende.
Je veux que la révolution ou que Cuba change, mais sans qu'on les trahisse. Cuba peut avancer, mais n'ira nulle part si on se divise ou si on se tire dans les pattes.
Pour éviter cette division, le PCC, Parti communiste cubain, et les comités de défense de la révolution veillent à chaque coin de rue. Et Raúl Castro en gardera le contrôle jusqu'en 2021. La Havane, Olivier Poujade, Gilles Gallinaro, France Inter.
Et son successeur sera, sauf énorme surprise, Miguel Díaz-Canel. En Corée, de l'autre côté du Pacifique, de nouveaux signes de détente ces dernières heures. Les détails dans une seconde. D'abord ce rappel, depuis 1953, la guerre en Corée n'est que suspendue. Eh bien, la Corée du Sud se dit prête à aller vers une paix véritable. France Inter à Séoul, Frédéric Ojardias.
Les deux Corées sont toujours techniquement en guerre depuis 7 décennies et le président sud-coréen souhaite donc discuter de l'établissement d'un régime de paix lors de sa rencontre avec Kim Jong-un la semaine prochaine. Le président américain Donald Trump a même déclaré qu'il donnait, ouvrez les guillemets, sa bénédiction pour que les deux Corées discutent de la question. Une question en réalité très compliquée. L'armistice de 1953 a été signé par la Corée du Nord et les États-Unis et Washington a toujours refusé un traité de paix qui aurait pour conséquence un retrait de ses troupes du sol sud-coréen. L'établissement d'un tel traité sera conditionné aux progrès obtenus sur le dossier nucléaire. Le chemin est donc encore long. Mais des progrès sont faits. Des médias ont révélé que le directeur des services de renseignements américains avait rencontré Kim Jong-un dans le plus grand secret fin mars à Pyongyang afin de préparer le sommet prévu début juin entre Kim et Donald Trump, un tête-à-tête qui aura justement pour ordre du jour la dénucléarisation de la Corée du Nord. Séoul, Frédéric Jardias, RFI pour France Inter.
Elle est en Allemagne, elle est à Berlin, elle pèse 500 kilos, elle est près de la gare centrale. C'est une bombe de la Deuxième Guerre mondiale qu'il va falloir évacuer. Opération d'évacuation massive à Berlin prévue vendredi. C'est une icône de la gauche, un homme qui se dit volontiers féministe, un comédien, metteur en scène, qui a un public d'inconditionnel, qui a proposé des spectacles parmi les plus marquants de ces dernières décennies. Il était de la troupe du Théâtre du Soleil d'Ariane Nouchkine. Voilà Philippe Cobert, soupçonné de viol. Bonjour Corinne Audouin.
Bonjour Bruno.
Que sait-on de cette affaire, Corinne?
Alors c'est une femme âgée d'une quarantaine d'années qui a porté plainte le 27 mars dernier. Cette Toulousaine accuse Philippe Cobert de l'avoir violée en 2010 après une représentation au Théâtre de Béziers. Dans sa plainte, elle décrit une première rencontre en février 2010 à Toulouse, puis des échanges de SMS et un rendez-vous au domicile de Philippe Cobert en région parisienne où il l'embrasse par surprise. La plaignante, qui travaille dans le milieu du théâtre, décrit une relation d'emprise psychologique. En mars 2010, à Béziers, à l'issue d'un dîner avec la troupe, elle le suit dans sa chambre d'hôtel. Elle décrit ensuite des coups au visage, une tentative d'étranglement et un viol. Des accusations que réfute Philippe Cobert, joint par Mathilde Lemaire.
Je tombe des nues, c'est complètement invraisemblable. J'ai vu cette personne, j'ai eu des relations sexuelles et amoureuses avec elle. Je me rappelle très bien d'elle. J'ai toujours eu une vie sexuelle et sentimentale très libre. Je le joue dans mes spectacles, j'en fais pas mystère. Mais le viol, ça c'est une autre affaire. Frapper sur une femme, je sais pas, comme frapper un enfant. Enfin, non, j'attends d'être convoqué par la police. Si les policiers me convoquent, j'irai les voir. Je leur montrerai mes échanges de mails avec cette personne. Et je vais surtout essayer de jouer.
Alors le parquet de Paris, qui a ouvert une enquête préliminaire, a saisi le SRPJ de Toulouse. Les policiers vont d'abord commencer par entendre la plaignante. L'affaire en tout cas embarrasse le théâtre de Toulon, où doit se produire demain soir Philippe Cobert avec sa pièce Le Bac 68. Le spectacle est à ce jour maintenu.
La grippe est loin d'être une maladie bénigne. Le bilan, chaque année, le rappelle, elle a fait 13 000 morts au cours de l'hiver qui vient de se terminer. C'était plus de 14 000 morts lors de l'hiver 2016-2017. C'est demain qu'on connaîtra le bilan des audiences radio pour le premier trimestre de cette année 2018. Un résultat sera regardé avec beaucoup d'attention, celui d'Europe 1, la radio du groupe Lagardère en grande difficulté ces derniers mois. Et ce groupe Lagardère, un des grands noms des médias en France, est manifestement en pleine mutation. Au-delà de la radio, c'était il y a quelques années des dizaines de journaux et magazines. Eh bien, il n'en restera bientôt plus que deux, Paris Match et le JDD. Les autres vont être vendus, et notamment Alexandra Akoun, deux titres emblématiques, elle, Télé 7 jours.
Oui, alors des négociations exclusives ont effectivement été ouvertes avec le premier groupe de médias tchèques, Czech Media Invest, pour céder Elle et ses déclinaisons, dont le site internet Elle en France, Télé 7 jours et ses déclinaisons également, Version Femina, Art et Décoration, France Dimanche, Ici Paris et le magazine People Public. Lagardère garde la main en revanche sur la marque Elle et ses déclinaisons internationales, sur son pôle news aussi, c'est-à-dire Europe 1, le JDD et Paris Match. L'annonce de ces cessions n'est pas vraiment une surprise. La branche média du groupe a été réorganisée le mois dernier en 5 pôles autonomes. On savait que le but était d'en céder certains. D'ailleurs, hier, le groupe a annoncé la vente de ses radios en Europe au même groupe tchèque, aujourd'hui intéressé par les magazines. Une enveloppe de 73 millions d'euros. Pour les magazines, on parle d'une transaction de 40 à 60 millions d'euros. Arnaud Lagardère veut se recentrer sur le développement de son pour l'édition et les commerces dans les gares et aéroports. Ces dernières années, il avait déjà réduit sa présence dans les médias, a vendu une douzaine de magazines déficitaires. Et le grand ménage pourrait continuer d'après Le Point. Gulli, la chaîne pour enfants du groupe, serait également à vendre, une pépite valorisée 150 à 200 millions d'euros.
L'invité de ce journal est Patrick Evenot, historien de la presse. Bonjour Patrick Evenot.
Bonjour.
Comment interprétez-vous ce choix de Lagardère de mettre en vente l'essentiel de ses magazines et notamment des titres comme Elle ou Télé 7 jours?
Écoutez, il y a deux Lagardère. Il y a eu Jean-Luc Lagardère qui a construit un groupe de médias tout à fait puissant, mais qui est décédé en 2003. Et il y a son fils Arnaud qui a décidé de se séparer de tout ce groupe, de tout ce que le groupe, que son père avait construit, et de tout éliminer. Et donc, il va liquider les uns après les autres tous les médias. Ça a commencé par la presse, mais ça a commencé aussi par Presstalis en 2011. Il a vendu sa participation, alors que depuis 1947, le groupe Hachette puis Lagardère détenait la moitié de Presstalis. Il a vendu sa participation pour un euro symbolique. Il s'est débarrassé de toute sa distribution de la presse en Europe et il continue et il va continuer à se débarrasser de la presse, puis de la télé et même de la radio.
Parce que les journaux, ça ne rapporte plus, et que donc Arnaud Lagardère, peut-être beaucoup plus froidement que son père, se dit « je n'en veux plus des journaux ». C'est aussi simple que ça?
Non, c'est pas aussi simple que ça. C'est parce que Arnaud Lagardère n'est pas un gestionnaire. Des journaux, ça peut rapporter si on les gère, si on a une stratégie, si on passe vers le numérique, s'il y a toute une série de politiques. On voit bien que d'autres financiers importants, comme Drahi, comme Niel ou d'autres, arrivent à gérer leurs journaux. Mais Lagardère, il n'a pas envie de gérer, ça ne l'intéresse pas. Ce qui l'intéresse, c'est le sport et pas grand-chose d'autre. Et donc, il veut se débarrasser et surtout conserver son patrimoine, parce que c'est d'abord une stratégie patrimoniale de savoir combien il va peser, 200 de millions d'euros à la fin de l'année.
Patrick Evenot, le choix en revanche de garder Match ou le JDD, c'est quoi? C'est parce que ce sont deux titres d'influence?
Alors pour l'instant, c'est parce que ce sont des titres d'influence Europe 1, le JDD et Match, ce sont les titres d'influence, mais quand ils disent ne sont pas à vendre, ça veut dire qu'ils ne sont pas à vendre tout de suite, ils seront à vendre dans 2 ans, 3 ans ou 5 ans.
Ils le seront.
Oui, ils le seront un jour ou l'autre, tout à fait. Ils veulent se débarrasser de tout ce qui est média et garder uniquement Lagardère, ce qu'ils appellent publishing, c'est-à-dire le groupe Hachette qui fait des livres, oui. Et là qui marche très bien, et puis Lagardère détaillant dans les aéroports, les gares, etc., mais en les reconvertissant, en faisant de moins en moins de presse et de livres, et de plus en plus de sandwichs et autre chose du même genre.
Question d'Alexandra Hakoun, Patrick Evenot.
Patrick Evenot, pourquoi un groupe de médias tchèques ? Personne en France ne voulait racheter ces titres ?
Il y avait des pourparlers il y avait une tentative entre Mondadori, Marie-Claire, etc., pour faire une joint venture, comme on dit, un package ou je sais pas quoi. C'est peut-être que les tchèques, ce tchèque-là, il a de l'argent. C'est un tchèque qui a de l'argent, c'est logique. On ne sait pas exactement pourquoi ils veulent. Peut-être avoir la marque EL et avoir une promotion grâce à la marque EL.
Juste, Patrick Evenot, on a choisi de prendre un peu de temps pour parler de ce sujet parce qu'au fond, c'est tout de même une page d'histoire des médias et de la presse qui se tourne et c'est un nouveau symptôme de la crise de la presse, me semble-t-il.
Oui, c'est un symptôme de la crise de la presse, mais en même temps, c'est un épiphénomène parce qu'il y a des milliardaires qui se sont emparés de la presse parce que la presse était pas chère et à vendre. Mmh. Mais en même temps, on peut en faire quelque chose. Encore une fois, il y en a un certain nombre qui réussissent à faire quelque chose. Il y a effectivement deux problèmes. C'est Bolloré avec Canal+ et Vivendi. Mmh. Et c'est Lagardère qui veut se débarrasser parce que il n'a pas envie de s'encombrer de choses qui vont l'obliger à avoir une vraie stratégie, une vraie tactique, un vrai dialogue social, une vraie pensée économique, et ça le fatigue.
Et il est envisageable qu'il se sépare de sa radio. Je commençais en disant qu'on aura demain les audiences radio, alors de Radio France, mais aussi d'Europe 1. Europe 1 qui était autour de 7 points d'audience, ce qui est un plus bas historique. Il est envisageable qu'Arnaud Lagardère se sépare d'Europe 1 ?
Tout à fait. Arnaud Lagardère se séparera d'Europe 1 si le redressement ne marche pas, parce que là, actuellement, on est à quasiment un tiers de déficit par rapport au chiffre d'affaires. Et puis, surtout, s'il voit qu'il n'y a pas d'avenir pour lui, parce que il a dit qu'il reprenait en main Europe 1, mais il ne sait pas comment en faire. Alors, il a débauché toute une série de gens, c'est très bien, mais apparemment, les audiences ne remontent pas. Et s'il n'y a pas d'audience, il n'y a pas de publicité et donc pas de bénéfices.
Merci.
Et donc, ça lui pose problème.
Merci, Patrick Evenot, d'avoir répondu à nos questions. Et dans Paris Match, qui appartient toujours au groupe Lagardère, vous apprendrez cette semaine que Manuel Valls et son épouse, la violoniste Anne Gravoin, se séparent après 12 années de vie commune. Retour à l'actualité politique, strictement politique en France. Chez les Républicains, alors que la loi Asile et Immigration est en débat au Parlement, Laurent Wauquiez présentait ce matin ses contre-propositions sur ce sujet de l'immigration. Bonjour Estelle Schmitt.
Bonjour.
Vous êtes au siège du parti Les Républicains. Il tape fort, Laurent Wauquiez. Il demande un référendum, mais il y a d'autres propositions, il tape fort.
Oui, il y a des mesures que la droite d'abord avait déjà demandées, comme l'expulsion des délinquants étrangers, la limitation de l'immigration familiale. Aujourd'hui, Laurent Wauquiez va beaucoup plus loin. Il propose de restreindre le droit du sol à tout le territoire français. En clair, pas de nationalité française à un enfant né en France dont les parents sont étrangers en situation irrégulière. Expulsion en 5 ans des 300 000 clandestins présents sur notre territoire. Créer un délit d'incitation à la haine contre la France avec reconduite à la frontière des auteurs. Et puis, vous l'avez dit, Laurent Wauquiez, comme le FN et Debout la France, veut consulter les Français au sujet de l'immigration.
Je considère que les Français ont le droit de choisir. Ce n'est pas aux passeurs, ce n'est pas aux juges de décider qui entre en France. Je veux que les Français puissent s'exprimer une bonne fois pour toutes à travers un référendum sur ce qu'ils souhaitent en termes d'immigration.
Laurent Wauquiez veut plus que jamais se poser en premier opposant à Emmanuel Macron en matière d'immigration et il veut aussi se démarquer de Marine Le Pen.
Le discours d'Emmanuel Macron est frappé de toutes les ambiguïtés sur cette question. Et il ne fait preuve d'aucune fermeté sur ce sujet. De l'autre côté, le discours du Front National conduit dans l'impasse. C'est la responsabilité des Républicains de porter ce débat.
Marine Le Pen, qui s'est réjouie ce matin auprès de journalistes de cette volonté du président des LR de référendum sur l'immigration, rappelant au passage qu'en son temps, Nicolas Sarkozy l'avait refusé, tout comme Laurent Wauquiez d'ailleurs.
Merci Estelle Schmitt. Dans l'actualité encore, cette information de dernière minute, un accident de 2 minibus qui transportent des enfants handicapés près de Lille. Le bilan est de 18 blessés, 3 personnes grièvement touchées. Et puis dans le conflit des universités à Montpellier, le tribunal administratif ordonne l'évacuation de l'université Paul-Claude.
Valérie. Bonjour Eva Bétan.
Bonjour.
Le choix cinéma avec vous chaque mercredi. Un film argentin. Oui. Cette semaine, notre enfant, Diego Lerman, le pitch, l'enfant possible de deux femmes.
Voilà.
L'histoire tourne autour de cela, une mère biologique, une mère adoptante, et ça se passe dans un seul pays.
Oui, ça se passe en Argentine, où on a l'habitude de voir ces questions sous l'angle nord-sud.
Nord-sud, voilà, pays riche, pays pauvre.
Et c'est vraiment intéressant. Nous sommes du point de vue de la femme qui va voir son rêve, j'ai envie de dire son obsession, s'accomplir, avoir un enfant. Elle arrive dans un hôpital d'Ekati, dans un coin reculé. Une femme va accoucher, elle accouche pour elle. Il ne s'agit pas de gestation pour autrui, d'à ce qu'on comprend. C'est une femme du peuple qui donne son enfant à une femme aisée, elle est médecin, contre de l'argent. C'est une sorte d'adoption sauvage et illégale, parce qu'on comprend très vite qu'il y a tout un trafic derrière organisé avec des autorités de mèche. Il y a des accents déjà de vérité dans ce film. Il faut savoir que le réalisateur a tourné dans une région où ce type, je ne sais pas comment appeler ça, d'adoption illégale sauvage, se pratique, et il a cherché des non-professionnels pour jouer qui connaissaient ce type de situation. C'est le cas de celle qui joue la mère biologique, Yanina Avila, Diego Lerman.
Quand Shanina a eu son deuxième enfant, elle a décidé de le donner à adopter contre de l'argent. Ce genre de choses est fréquent dans sa région, qui est une des plus chaudes en matière d'adoption. Mais au dernier moment, elle a regretté, elle a gardé l'enfant.
Alors comme toujours, tout dépend de la manière dont on fait du cinéma, ça pourrait être tout. Mais ce qu'il y a de vraiment très intéressant, et la mise en scène est très maîtrisée, c'est que par exemple, il procède par ellipse. Il ne dit pas tout. Du coup, vous êtes aux aguets. Du coup, vous n'êtes pas passible par rapport au film. Il ne fait pas de moralisme. Et il nous place dans une position inconfortable. En fait, personne n'est vraiment antipathique, à part les trafiquants, et personne n'est vraiment sympathique. Dans ce trafic, des miettes iront à la mère, des miettes iront aux pauvres. Mais elle a quand même accepté à un moment donné envisager de donner son enfant. La femme adoptante, on partage sa détresse, on la comprend, mais elle est dans une situation terrible, elle est du côté du pouvoir, elle a le pouvoir de l'argent, la plata, comme lui dit l'autre femme. Et quand elle a l'enfant dans les bras, on est dans un sentiment très ambigu avec elle, avec l'enfant dans les bras. En fait, c'est une affaire de riches et de pauvres. On en arrive là. Ce n'est jamais une femme riche qui va avoir un enfant pour une femme pauvre. Et bien sûr, il y a un substrat politique. Diego Lerman.
Il y a un transfert entre classes sociales. Des enfants de classe pauvre sont adoptés par les classes sociales moyennes et riches.
Medias y altas. Mi foco en la película.
Ce que je raconte dans ce film rejoint une idée politique. Une grande partie de la population vit dans des conditions indignes.
Je trouve pas ça très bon. Oui, alors voilà, moi je trouve que l'intranquillité, pour reprendre un beau mot, est un très bon principe. Oui, est un très bon principe de cinéma. Vous verrez, il y a des rebondissements qu'on n'attend pas. Il y a un côté western, il y a un côté road movie, mais tout ça, à l'arrivée, ça vous amène à des questions et pas à des réponses.
Eva Bétan, le film que vous nous conseillez cette semaine, Notre enfant de Diego Lerman, signalons qu'à l'affiche cette semaine, il y a aussi Largué, qui réunit Miu Miu et les deux Camille, Cotin et Chamou. Et puis Javier Bardem, Dans la peau de Pablo Escobar. Et puisqu'on parle de cinéma, encore deux informations. Le jury du Festival de Cannes, vous avez regardé ça de près, j'imagine.
Mais je vais vous laisser en parler.
Majoritairement féminin, 5 femmes, 4 hommes. La présidente Cate Blanchett, ça on le savait. À ses côtés, il y aura Léa Seydoux, Kristen Stewart. Parmi les hommes, il y a les réalisateurs Robert Guédiguian ou Denis Villeneuve. Et Cannes, c'est à partir du 8 mai. Vous avez 3 semaines pour faire vos valises, ça ira.
Exactement.
Et puis le cinéma, ça se joue en Arabie aussi. On parle de ce qui est à l'affiche en France aujourd'hui. En Arabie, il y a quelque chose à l'affiche ce mercredi, et c'est une information importante parce que ça fait 35 ans que les salles étaient interdites dans le royaume ultra-conservateur d'Arabie. Interdiction levée, la première projection a lieu aujourd'hui. Projection test, dit-on là-bas, du film américain Black Panther, et l'ouverture proprement dite plus large au public, ce sera le mois prochain. Encore un mot, l'actualité du football, Caen PSG, la deuxième demi-finale de la Coupe de France ce soir. Les Herbiers sont déjà en finale, victoire hier des Vendéens. La finale, ce sera là aussi le 8 mai, le jour de l'ouverture du Festival de Cannes.
La météo avec Switch Assure, comparateur d'assurance emprunteur 100% en ligne. Comparer, switcher, c'est gagner. Rendez-vous sur switchassure.fr.
Elodie Calac.
On en profite, le soleil est là sur l'ensemble du pays. On cherche les nuages, on en trouve quelques-uns sur le relief du sud avec une rarondée vers le sud des Alpes, sur la montagne Corse. Attention, en montagne, avec ce temps d'été, la fonte du manteau neigeux est amorcée. Le risque d'avalanche est fort sur les Alpes comme sur les Pyrénées. Le vent de sud-est est sensible vers la Bretagne. On a du vent aussi dans le sud. Le vent d'Autan peut atteindre 80 km à l'heure de l'Aude jusqu'au midi toulousain. Côté thermomètre, c'est quasiment estival. 21 degrés à Nice, 23 degrés degrés à Cabourg, 25 à Lille et Marseille, 26 à Angers, à Lyon, 27 degrés à Paris, Strasbourg ou Montauban, 28 à Limoges et Biarritz. Le beau temps va se poursuivre toute la semaine. Quelques passages nuageux pour le week-end dans une ambiance encore très douce.